Eh bien, bonsoir à nouveau.
La semaine dernière, on a réfléchi sur la béatitude des doux, et c'était beau de voir à table, là, en tout cas là où j'étais, de voir un petit peu cette semaine comment certains se sont dit, tiens, ben là, j'ai un moment de douceur, ou là, j'ai un moment de colère qui devrait être adouci. Chacun a pu vivre comme ça sur la semaine quelque chose de cette béatitude, et c'est beau comme ça de semaine en semaine. D'essayer de se dire, bah, cette semaine, je vais focaliser sur cet aspect de l'évangile. Et alors, il y avait une question qui a été soulevée. Oui, la douceur, mais alors, est-ce que c'est pas finalement la résignation, quoi? Je fais rien, je laisse les autres me marcher sur les pieds, puis alors on est tout doux. Ce soir, on va voir une vertu qui contrebalance un petit peu cette vision des choses. Parce que la douceur sans la justice, ça devient de la mollesse, ça devient de la résignation, ça devient une mauvaise manière de comprendre si on te frappe sur la joue droite, tend la joue gauche, puis retend la joue droite autant que possible, puis à nouveau la joue gauche. Enfin, ça devient un peu compliqué, un peu masochiste quand même. Donc, après la béatitude des doux, Jésus dit, heureux ceux qui ont faim et soif de justice. Il faut prendre toutes les béatitudes ensemble, de façon connexe, pour interpréter chacune des béatitudes. Alors comme ça, on va voir l'éclairage de la justice sur la douceur. La justice, c'est très important pour le thème qui nous importe cette année, pour le thème de la charité fraternelle, parce qu'au fond, il n'y a pas de justice, il n'y a pas de véritable charité sans justice. Et ça, c'est très important à comprendre. On ne peut pas dire, bah, puisque tu es mon ami, c'est pas grave si je ne suis pas très juste avec toi. Non, non. Si on ne pose pas la justice d'abord, ou en même temps, il n'y aura pas d'amour véritable. Saint Jean-Paul II disait, l'amour pour l'homme se traduit concrètement par la promotion de la justice. Et au plan politique, on sait à quel point c'est important. Il n'y a pas de bien vivre ensemble sans justice. La justice est au cœur de la vie sociale agréable. Alors, qu'est-ce que c'est que la justice? En deux mots, pour dire tout de suite de quoi on parle, au plan philosophique, il y a une fameuse définition qui consiste à dire que la justice, c'est rendre à l'autre ce qui lui est dû. Donc, définition assez simple à comprendre, on pourrait dire, c'est respecter le droit de l'autre. Eh bien, c'est déjà pas si facile de respecter vraiment le droit de l'autre, de lui rendre ce qui lui est dû. Mais on va voir qu'au sens biblique, la justice, c'est beaucoup plus que cela. La justice, selon la Bible, c'est d'être ajusté à Dieu. Et donc tout de suite, c'est mystérieux. Rendre à César ce qui est à César, ok, mais rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Déjà difficile de rendre à l'État tout ce qu'on lui doit. On est citoyen d'un pays, on bénéficie de plein de choses grâce à ce pays. Alors d'accord, on paye quelques impôts, mais on a reçu une éducation, on a reçu une culture, on a reçu tant de choses du pays qui est le nôtre. De sorte que rien que rendre à César ce qui lui est dû, c'est déjà difficile en fait. Mais alors rendre à Dieu ce qui lui est dû, étant donné qu'on lui doit l'être, la vie et le mouvement, c'est vraiment mystérieux. Et pourtant, c'est ça la justice selon la Bible. Et d'une certaine façon, vous sentez bien que l'homme juste, alors, c'est le saint. On pourrait pratiquement identifier les choses dans la Bible. Le juste, c'est le béni de Dieu, c'est celui qui a reçu comme un don du ciel la justice divine. C'est pour ça que j'ai mis ce tableau. On a retrouvé en 1937, à Nazareth, un tombeau dont on ignorait l'existence jusque-là, qu'on appelle le tombeau du juste. Et on s'est demandé qui peut être le juste, appelé le juste à Nazareth. Évidemment, on a pensé à Saint Joseph, puisque Matthieu le décrit comme l'homme juste. Et donc j'ai voulu mettre ce soir cet exposé sous le patronage de Saint Joseph, dont on voit ici une image, une peinture du couronnement de Saint Joseph. C'est assez rare de voir ça. Jésus lui-même qui accueille Saint Joseph au ciel et qui le couronne. Alors ce soir, on demande voilà l'autorité de Saint Joseph, la paternité de Saint Joseph pour parler de la faim et de la soif de justice. Jésus n'a pas dit bienheureux les justes, notez bien. Il a dit bienheureux ceux qui ont faim et soif de justice. Donc l'accent porte sur le désir. Bienheureux ceux qui désirent la justice. Alors, on désire tous la justice. On est spontanément en colère lorsque nous constatons l'injustice, et c'est bien. Alors, c'est surtout à notre égard ou à notre encontre. Mais généralement, en fait, le désir de justice mêlé de colère ne nous rend pas particulièrement heureux. C'est le problème de cette béatitude. On ne voit pas en quoi ça rend heureux d'avoir faim et soif, déjà. Je ne sais pas, quand vous avez faim et soif, passer un certain degré, ça ne vous rend pas du tout heureux. S'il est 11h et que vous savez que vous avez une entrecôte dans une heure, ça va, vous êtes content d'avoir faim et soif. Si ça fait longtemps que vous n'avez pas mangé des bonnes choses et que vous crevez la dalle, eh ben, ça ne vous rend pas du tout heureux. Donc en quoi Jésus a pu-il dire heureux ceux qui ont faim et soif de justice, sachant qu'en plus ça met en colère l'injustice. Donc voilà un peu la question à laquelle on va essayer de répondre ce soir. C'est quoi cette béatitude? Et pour cela, on va analyser chaque mot. Justice, faim et soif, heureux, ils seront rassasiés. Donc on a vraiment quatre éléments à regarder si on veut comprendre cette béatitude. Alors commençons par la justice. Je vais aller très vite au plan humain, on pourrait faire tout un cours de philo sur la justice, bien sûr. Mais disons que les Grecs, qui sont ceux qui nous ont livré d'abord une philosophie de la justice, en avaient un très grand sens. Ils disaient, par exemple, il y a un adage antique qui disait « Ni l'étoile du soir, ni l'étoile du matin ne sont aussi admirables que la justice. » Vous voyez, ils avaient une espèce de contemplation de la justice qui a été très importante pour la démocratie athénienne. Et Aristote disait que c'est la vertu la plus complète. Parce que si vous regardez les quatre vertus cardinales, il y en a trois qui sont pour votre pomme quand même. La prudence, c'est pour votre propre bonheur. La tempérance, c'est pour être équilibré. La force, c'est pour vous lever le matin et partir au combat. La justice, c'est pour les autres. Et donc Aristote disait, c'est la vertu la plus complète parce qu'on ne peut pas être juste si on n'est pas prudent, tempérant et fort. Mais en plus, on prend soin des autres. Et donc, c'est une vertu qui englobe les autres, les assume et les tourne vers autrui. Donc, en ce sens, on pourrait dire que c'est la vertu la plus parfaite parmi les quatre vertus cardinales, en un sens. Alors, tout ça est très beau au plan humain, philosophique, mais dans la Bible, c'est bien autre chose, la justice. La tzedakah en hébreu, diakousuné en grec, c'est au fond la justice même de Dieu. On reverticalise les choses. Cette fois, il s'agit vraiment de la justice à l'égard de Dieu ou même de la justice de Dieu lui-même, de sorte que la grande injustice dans la Bible, c'est de pécher contre Dieu. Vous voyez, quand David se repent d'avoir péché, ça me surprend toujours d'ailleurs ce verset, où il dit « Contre toi et toi seul j'ai péché, ce qui est mal à tes yeux je l'ai fait ». Pourtant il a pris la femme d'Ouri, Bethsabée, il a fait tuer Ouri ensuite, plusieurs soldats par le fait même, et puis il dit « Contre toi, toi seul j'ai péché ». C'est quand même bizarre. C'est très biblique. C'est-à-dire, il a le sens que c'est Dieu d'abord qui a été l'objet d'une injustice. Aujourd'hui, ça nous choque un peu. Hein. On dirait « Non, non, c'est quand même Ouri, les autres soldats qui ont pris pour lui ». Alors, ça nous invite à une réflexion biblique. À partir de quand vient l'injustice dans le monde? Comme d'habitude, on revient à la Genèse, à l'origine. Avant la chute, au moment de la création de Dieu, il n'y avait aucune injustice dans le monde, bien sûr. Tout était en ordre. Dieu a tout fait avec ordre, poids et mesure. Tout était en place. Et tout est venu chaotique à partir du moment où l'homme s'est séparé de Dieu. Donc là, on a une clé d'interprétation. L'origine de l'injustice, c'est le péché au sens de la séparation d'avec Dieu. L'injustice est entrée dans le monde, la mort est entrée dans le monde avec l'injustice, et on le voit tout de suite avec Cain et Abel. Dieu avait dit, si tu manges de ce fruit, tu vas mourir. Donc n'en mange pas. Adam a pris le fruit, Ève, ils l'ont mangé avec Ève, et à ce moment-là, effectivement, la mort est entrée dans le monde. Mais vous remarquez bien qu'on ne nous parle pas de la mort d'Adam et Ève. On aurait pu penser que la conséquence, ben, ils mangent le fruit, ils sont empoisonnés, puis ils meurent. Ou qu'ils continuent, et puis ils deviennent vieux, et ils meurent, tout simplement. Non, non, le premier mort dans la Bible est mort d'une mort violente. Il n'est pas mort de sa belle mort. n'est pas mort de vieillesse. La première mort, et donc ce qui est premier est toujours un petit peu ce qui commande la suite, c'est le fratricide. C'est Caïn qui va tuer son frère Abel. Et donc la conséquence immédiate du péché originel, c'est l'injustice qui va jusqu'au meurtre. La meilleure manière de régler un problème avec l'autre, c'est de l'éliminer à partir de là. Je peux le spolier d'abord, je peux lui spolier ses droits. Il y a moult injustices dans le monde, mais la manière la plus radicale, si A a un problème avec B, c'est d'éliminer B. Tant que l'homme était uni à Dieu, l'homme était uni à son frère. À partir du moment où l'homme s'est séparé de Dieu, eh bien, il s'est séparé de son frère. Et ça a été tellement loin qu'ensuite la Genèse nous dit qu'il y a une iniquité généralisée. On le voit au chapitre 6, Dieu lui-même se repent d'avoir créé l'homme. Je vous lis ce passage terrible. Le Seigneur vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre et que toutes les pensées de son cœur se portaient uniquement vers le mal à longueur de journée. Le Seigneur se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Il s'irrita dans son cœur et dit « Je vais effacer de la surface du sol les hommes que j'ai créés. » Alors vous savez qu'il en sauve quand même un, Noé, et puis quelques membres de sa famille, et puis les animaux, et ils vont dans cette arche. Alors on est dans un récit mythique, mais qui exprime que Dieu reprend tout à partir d'une sorte de nouvel Adam. Adam a péché, Noé fait partie de la descendance d'Adam, mais Dieu va tout reprendre avec cet homme juste. Pendant que tous les autres sont dans l'iniquité et l'injustice, il y en a un qui lui paraît juste, et il se dit à partir de ce juste-là, on va tout reprendre. Donc on pourrait dire que si Jésus est appelé le nouvel Adam, le premier nouvel Adam, en fait, dans la Bible, c'est Noé. Et Dieu reprend tout à partir de lui. Et Noé va donc apprendre à être ajusté à Dieu. Il est déjà disposé à la justice, et Dieu lui-même va l'éduquer, il va éduquer son peuple à découvrir ce qu'est la justice. Alors ça passera par la loi, les prophètes, les rois, ça va passer par toute l'histoire de l'Alliance, où il nous est dit souvent que Dieu est juste, par exemple au psaume 118, « Toi, tu es juste, Seigneur, tout est droit dans tes décisions, tu promulgues tes exigences avec justice, avec entière fidélité. » Et voilà pourquoi la Torah, la loi, va être si importante pour les Juifs, parce qu'il s'agit d'être ajusté à Dieu, accordé à Dieu. Alors quand on dit « bienheureux ceux qui ont faim et soif de justice », il faut donc dire d'abord « bienheureux ceux qui ont faim et soif d'être ajustés à Dieu, qui est la source de toute justice ». Alors venons-en au deuxième point, ça c'était pour comprendre un petit peu ce qu'est la justice, la tzedakah, au plan biblique. Maintenant, la faim et la soif. Notre première expérience de la justice, je pense que c'est souvent celle de l'injustice, plutôt. Regardez dans votre vie, est-ce que vous vous souvenez de votre première expérience d'une justice qui vous a été faite ou d'une justice que vous avez faite? Très souvent, vous direz... Moi, je me souviens surtout d'une injustice qu'on m'a faite. Et on s'en souvient. Essayez de faire mémoire, ça pourrait être une discussion à table, même si c'est trop personnel, peut-être, pour être abordé à table. Mais quelle est ta première expérience d'injustice dans la vie? Peut-être les parents, déjà, les grands-parents. J'ai été puni injustement à l'école. On ne m'a pas noté selon ce qui me semblait être juste, etc. Très tôt, on fait des expériences d'injustice, et ça nous fait bouillonner de colère. Héraclite, un philosophe grec du 5e siècle avant Jésus-Christ, disait « S'il n'y avait pas d'injustice, on ignorerait jusqu'au nom de la justice. » Notre première expérience, c'est celle de l'injustice. Et le signe qu'on a vécu une injustice, c'est la colère. Donc on va y revenir. Alors la liste serait longue dans le monde, hein, si on voulait énumérer toutes les injustices du monde actuel, la liberté piétinée dans les dictatures, pensons à tous ces manifestants en Iran, les discriminations, qu'elles soient raciales, religieuses ou de genre, l'esclavage, qui n'a jamais vraiment disparu sur la planète. On a parmi nous certains qui sont particulièrement au courant de ce phénomène. L'exploitation des enfants, les guerres qui tuent, qui chassent des millions de personnes de chez eux, les puissants qui pillent la terre des plus pauvres, l'injustice jusque dans la justice, c'est-à-dire l'iniquité, l'impunité des forts, la défense réservée à ceux qui ont les moyens pour se payer un bon avocat. Tout ça, c'est révoltant. Regardez l'actualité, hein, l'affaire Epstein, ça nous met un peu en colère de voir qu'il y a plein de documents qui ne sont pas là, que les autres qui sont caviardés. On sent un besoin de justice, on a envie de dire, mais c'est pas normal, ils vont encore échapper. Pensez à Crans-Montana, on a envie aussi de savoir que justice soit faite. Oui, ce besoin, il est très fort, il est viscéral, notre besoin de justice. Alors là où il s'exprime de façon peut-être moins viscérale, mais aussi évidente, puis ça dépend, moins viscéral, ça dépend quelle est la situation dans laquelle on se trouve, c'est la répartition des salaires. Est-ce que vous savez quel est le salaire d'Elon Musk? L'homme le plus riche de cette planète, semble-t-il, est donc l'homme le plus riche de tous les temps, plus que Crésus, plus que Rothschild, plus que tout homme avant lui. 850 milliards de dollars, d'après ce que j'ai vu. C'est-à-dire qu'on considère qu'il gagne 500 000 dollars par minute. Ça veut dire 8 000 dollars par seconde. Donc, si je vous fais un exposé de 40 minutes à peu près, ça vous coûtera 19 millions et 200 000 dollars. Il y a un moment, on se dit, mais c'est pas juste. Vous voyez, une femme qui travaille dans un EMS, il va lui falloir 1200 ans pour gagner le salaire qu'aura un grand PDG en un an. Mais c'est pas juste. 1% des plus riches posséderaient 43% de la richesse mondiale. Alors, on ne va pas forcément incriminer telle personne. Il se dit, ben, je suis riche, tant mieux, et je vais faire quoi? Je ne vais pas changer le monde. Mais on sent bien que le système lui-même est injuste, que quelque chose ne va pas. Saint Grégoire de Nazianze, lui, évidemment, c'est le pasteur qui essaye d'exhorter. Alors, il dit, ayez honte, vous qui retenez le bien d'autrui, imitez l'équité de Dieu, et il n'y aura plus de pauvres. Alors, le problème, c'est qui commence? Là, c'est un problème politique, et comment on fait? Mais la réaction normale, en tout cas, face à l'injustice, c'est la colère. L'injustice révolte, l'injustice met en colère, et cette colère, elle est souvent juste. Et c'est pourquoi Jésus lui-même se met en colère souvent. Et qu'on applique la colère même métaphoriquement à Dieu. Dieu ne se met pas en colère, il est esprit. Il n'a pas de passion au sens strict. Mais on veut dire que Dieu est blessé par l'injustice. Prenez Isaïe 30, par exemple. Brûlante est sa colère, lourde, écrasante. Ses lèvres sont gonflées d'indignation. Sa langue est un feu dévorant. Son souffle, un torrent qui déborde et monte jusqu'à la gorge. Oui, c'est métaphorique, c'est poétique, puisqu'il n'a pas de langue, il n'a pas de souffle, il n'a pas de lèvres gonflées, donc on comprend bien qu'on ne va pas appliquer ça matériellement. Mais on veut exprimer quelque chose. On veut dire que si nous, on est en colère par rapport à l'injustice, combien plus Dieu veut le rétablissement de la justice. Et pourtant, Jésus ne dit pas « heureux ceux qui sont en colère à cause de l'injustice ». Jésus n'a pas béni la rage, il n'a pas parlé de la colère directement comme une béatitude, mais de la faim et de la soif. « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice ». Alors pourquoi? Pourquoi ne pas dire « heureux ceux qui sont en colère contre la justice » Il y a un point commun entre les deux, en tout cas. Si vous êtes en colère, vous n'arrivez pas à dormir. Si vous avez faim et soif, vous n'arrivez pas à dormir. Donc, les deux ne vous laissent pas en repos. Donc, on peut dire qu'il y a au moins un point commun, et ça vous pousse à agir. Vous avez faim et soif, vous allez voir s'il n'y a pas un truc dans le frigo. Vous êtes en colère, vous allez rédiger un mail salé, qu'il ne faut surtout pas envoyer, je vous conseille. Envoyez-le le lendemain matin, écrivez-le, ça va vous défouler, mais ne l'envoyez pas. Et la grande différence, c'est quoi? La faim et la soif, je donne deux grandes différences, en fait. La faim et la soif sont beaucoup plus vitaux. Si vous êtes en colère et que vous n'arrivez pas à décolérer, ça ne va pas vous tuer, normalement. En revanche, si vous avez faim et soif et que vous n'arrivez pas à manger et à boire, ça peut vous mener à la mort. Donc Jésus a utilisé quelque chose de beaucoup plus vital que la colère. Et puis en plus, la colère, elle porte sur le négatif. Elle veut le rétablissement de la justice, elle veut écraser l'injustice surtout. Alors que la faim et la soif de justice, c'est beaucoup plus positif. Je désire la justice. Je désire pas d'abord l'emprisonnement des gens qui m'ont fait du mal, je désire la justice. Donc c'est une manière beaucoup plus positive de regarder les choses. J'aimerais éventuellement la mettre en parallèle avec la troisième demande du Notre Père. Au fond, le juste, il désire que le règne de Dieu vienne. La grande prière de l'homme qui désire la justice, mais c'est que ton règne vienne. Alors on va prendre le modèle du Christ, qui va être un peu déroutant. Et ça va nous obliger à revenir sur la douceur et à la miséricorde, à anticiper la miséricorde, et à nous poser quand même une question, puisque la manière dont Jésus exerce la justice n'est pas du tout celle qu'on aurait, nous, exercée. Saint Jean rapporte que Jésus, sur la croix, sachant que son heure était venue, dit « j'ai soif ». C'est sa dernière parole, pratiquement, en Saint Jean, « j'ai soif ». Alors, ça rejoint la parole, vous voyez, on peut le mettre en parallèle. « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, Jésus meurt en disant « j'ai soif ». Parce qu'en fait, c'est un cri de soif de justice qu'il a exprimé. Il me semble que ça ne serait pas faux de l'interpréter comme ça. Il y a peut-être plus, le « j'ai soif de Jésus » peut être interprété de bien des manières, mais on peut tout à fait le mettre en parallèle avec la béatitude des justes. Il a soif du rétablissement de la justice de Dieu. Et il crie sa soif et il meurt comme ça. Alors il y a un passage où on voit Jésus qui est placé en situation de juge. Je ne sais pas si vous avez immédiatement en tête ce passage. Un passage où, malgré lui d'ailleurs, on l'oblige à faire justice. C'est le passage de la femme adultère. Il y a une femme qui est prise en flagrant délit d'adultère. Comme par hasard, l'homme, on le laisse partir, il n'y a que la femme qu'on amène. Alors que le Lévitique disait « ceux qui seront pris en flagrant délit d'adultère seront lapidés ». Bon, c'est pas cool à l'époque, hein, les autres temps, autres mœurs. Et à ce moment-là, l'homme aussi, normalement. Comme par hasard, il n'y a que la femme. Mais bon, laissons tomber ce point, ce n'est pas l'essentiel. Et voilà qu'on amène donc cette femme à Jésus. Ils font cercle autour, le cercle indiquant l'emprisonnement diabolique. En fait, ça y est, Jésus est au milieu avec la femme et il est sommé d'exercer la justice. Moïse avait dit, voilà, qu'on doit lapider de telle femme. Toi, tu dis quoi? Et on voit bien le piège. S'il dit autre chose que Moïse, on pourra le lapider lui, puisqu'il aura blasphémé, il aura été contre Moïse, donc contre la parole de Dieu, donc contre Dieu. À ce moment-là, Jésus, il est coincé. Vous vous souvenez ce qu'il fait? Il s'abaisse et il commence par écrire sur le sol. On ne sait pas ce qu'il a écrit. C'est la seule fois qu'on nous dit que Jésus a écrit. Et on se dit, ben non, on meurt, donc mon désir d'aimer éternellement est ce qui postule la vie éternelle. Mais il ajoute, mais seulement en liaison avec le fait qu'il est impossible que l'injustice de l'histoire soit la parole ultime. Alors seulement la nécessité du retour du Christ et de la vie nouvelle devient totalement convaincante. Il faut qu'il y ait une justice à un moment. Cette justice que je n'ai pas vue sur terre, il faut au moins que je sache qu'elle va avoir lieu. Alors c'est la question très compliquée. Est-ce que la charité fraternelle peut aller avec l'appétit de vengeance ? Peut-être pas, mais est-ce que la charité fraternelle peut aller avec la punition? Mettons que vous êtes en situation d'autorité et vous avez à punir, à sanctionner, disons, pour ne pas employer un gros mot. Vous êtes des parents, vous éduquez vos enfants, est-ce que c'est de la charité que de sanctionner? Ou est-ce que c'est un manque d'amour? Ça risque d'être vécu comme ça. Alors c'est compliqué. Alors moi je vous donnerai philosophiquement trois raisons qui légitiment le fait qu'il faut absolument sanctionner. D'abord pour les victimes. Les victimes ont besoin de savoir que l'injustice n'aura pas le dernier mot. Un sociologue polonais, Zygmunt Bauman, disait « Les victimes ont besoin de croire qu'il est dans le pouvoir des hommes d'éliminer ce type particulier de souffrance dont elles ont été victimes. Ils doivent, eux, les témoins de leur et les témoins de leurs conditions, être sûr que les choses peuvent être changées et que c'est l'action humaine qui peut le faire. Vous voyez, si une victime ne se sent pas écoutée ou si une victime sent que l'injustice triomphe, alors c'est la rage ou le désespoir. Aux vieillesses ennemies. Alors, c'est une autre forme, vous voyez, d'injustice. Je rajoute une injustice à la personne qui a déjà commis l'injustice. Elle va voir le juge et le juge, en fait, ne l'écoute pas. Comme la veuve importune avec le juge inique dans la parabole de Jésus. Deuxième raison, c'est la société. Sanctionner, c'est rappeler à tous que la vertu et la vie sont deux chemins inégaux et que l'un est meilleur que l'autre et que, au-delà de la victime et du coupable, c'est la loi elle-même qui a été bafouée, donc la possibilité de vivre ensemble. Et donc, il est capital pour le bien commun d'exercer la justice via la sanction quand il y a eu des injustices. Ce n'est pas seulement pour les victimes, c'est aussi pour la société. Et puis, et d'ailleurs le pape François le disait, je vais me le citer parce qu'on a toujours l'impression qu'il a eu que des paroles de miséricorde et que c'était doucereux, mais non, non, non. Dans Fratelli Tutti, il dit « La vie en commun, structurée autour de la communauté organisée, a besoin de règles de coexistence dont la violation libre exige une réponse adaptée. Cela implique que l'autorité publique légitime peut et doit infliger des peines proportionnées à la gravité des délits. » Ensuite, il y a le bien du coupable lui-même. La punition n'a de sens que si elle l'aide à changer. Elle a un rôle éducatif. Elle prépare l'avenir, en fait. Et ça, c'est une vieille théorie qu'on trouve déjà chez Platon dans un petit dialogue qui s'appelle le Protagoras, où Platon dit « Personne, en effet, en punissant le coupable, n'a en vue ni ne prend pour mobile le fait même de la faute commise, à moins de s'abandonner comme une bête féroce à une vengeance dénuée de raison. » Donc on ne punit pas pour se venger, en fait. « Celui qui a souci de punir intelligemment ne frappe pas à cause du passé, car ce qui est fait est fait, mais en prévision de l'avenir, afin que ni le coupable ni les témoins de la punition ne soient tentés de recommencer. Penser ainsi, c'est penser que la vertu peut s'enseigner. C'est espérer dans le fait que l'autre peut bénéficier de la sanction pour progresser. » Alors c'est peut-être naïf, certains le diront, mais c'est aussi ce que dit l'Épître aux Hébreux. « Quand le Seigneur aime quelqu'un, il lui donne de bonnes leçons. Il corrige tous ceux qui l'accueillent comme des fils. Ce que vous endurez est une leçon. Dieu se comporte envers vous comme envers des fils. Et quel est le fils auquel son père ne donne pas de leçons ?» Vous voyez, des parents qui voudraient jamais corriger les enfants, c'est un manque de charité par omission. Ils omettent d'exercer la justice. Et ce n'est pas aimer vraiment ses enfants que de faire ça. Alors, cela dit, il y a un grand éducateur que j'aimerais inviter ce soir, il est mort, c'est Saint Jean Bosco. Saint Jean Bosco, une de ses dernières lettres à ses frères salésiens, on a vu, oui, Saint François de Sales, le patron de la douceur la dernière fois, et Jean Bosco est très pétri de la spiritualité de François de Sales, de sorte que son ordre s'appelle les salésiens. Et c'est un ordre spécialisé dans l'éducation des jeunes. Et alors, ce qui est curieux, c'est que pratiquement sa dernière lettre à ses frères, c'est une lettre sur la punition. Et j'aimerais la lire parce que c'est très impressionnant. D'abord, on sent qu'il hésite à recommander le recours à la sanction. Il dit « Les moyens coercitifs ne sont jamais employés, mais toujours et seulement ceux de la persuasion et de la charité. » Et en même temps, il sait qu'il y en a qui sont rétifs, que le mal est tenace et que parfois il faut même il faut sévir, parfois il faut punir. Alors à ce moment-là, il leur donne trois conseils. Et vous allez voir la subtilité, la douceur dans la fermeté d'un Jean Bosco. Ne punissez jamais avant d'avoir épuisé tous les autres moyens possibles. Première recommandation. Il dit « Je voudrais que le salésien soit toujours comme Moïse qui s'efforce d'apaiser le Seigneur, justement indigné contre son peuple Israël. J'ai souvent rencontré des esprits totalement obstinés, tellement rétifs à toute bonne insinuation, qu'ils ne me laissaient plus aucune espérance de salut, si bien que je me voyais alors dans la nécessité de prendre envers eux des mesures sévères. Finalement, ils ne cédèrent que devant la charité. » Deuxième conseil qu'il donne à ses frères, faites en sorte, dans les corrections, de choisir le moment favorable. Il dit, ne punissez pas un enfant dans l'instant même de sa faute, par crainte qu'il ne s'aigrisse et n'en commette de nouvelles et de plus graves. il faut leur laisser le temps de réfléchir. La conduite que le Seigneur a voulu tenir envers saint Paul, quand celui-ci était encore respirant colère et menace contre les chrétiens, m'a toujours donné à réfléchir. Et il me semble y voir la règle qui nous est donnée à nous aussi quand nous rencontrons des cœurs récalcitrants à nos volontés. Le bon Jésus ne le jette pas à terre tout de suite, mais après un long voyage, après qu'il eut pu réfléchir à sa mission, et loin de ceux qui auraient pu lui prodiguer des encouragements à persévérer dans sa résolution de persécuter les chrétiens. Là, au contraire, aux portes de Damas, il se manifeste dans toute son autorité sa puissance, et tout ensemble, avec force et douceur, il lui ouvre l'esprit pour qu'il reconnaisse son erreur. Et ce fut précisément à ce moment que changea le caractère de Paul, et que de persécuteur il devint un apôtre des nations et objet d'élection. Je voudrais que mes frères salésiens se forment à cet exemple et qu'avec une patience éclairée, une clarté industrieuse, ils attendent au nom de Dieu le moment opportun pour corriger leurs élèves. Et puis troisième conseil, et puis après on terminera en voyant le mot « heureux », excluez toute idée qui puisse faire croire qu'on agit par passion. Quand on punit, dit-il, on conserve difficilement le calme nécessaire pour éloigner tout doute qu'on agit pour faire sentir sa propre autorité ou défouler sa propre passion. Il faut avoir comme Jésus, faire comme Jésus avec ses apôtres. Ils supportaient leur ignorance et leur rudesse, leur peu de fidélité. Et il traitait les pécheurs avec une familiarité et une intimité telles qu'elles mettaient certains dans la stupeur. Chez d'autres, provoquaient le scandale, mais donnaient à beaucoup la sainte espérance d'obtenir le pardon de Dieu. Je ne crois pas opportun de vous dire, en long et en large, comment Dieu a voulu un jour donner une leçon solennelle et pratique au prophète Élie. Vous savez, le prophète Élie est tellement en colère qu'il a égorgé de sa main 300 idolâtres. Comment Dieu l'a éduqué? Eh bien, Dieu, il l'a mis dans une grotte, il lui a fait entendre l'ouragan, puis le feu, puis le tremblement de terre, et puis tout d'un coup la brise légère, et lui a fait comprendre que Dieu était dans la brise légère et non pas dans le tremblement de terre. Alors voilà ce que dit Jean Bosco à ses frères salésiens, la brise légère, la douceur fera plus de bien dans l'éducation que la violence. Cependant, vous voyez, il parle quand même de sanctions. Il va chercher la manière la plus douce d'exercer la sanction, mais elle doit être exercée quand même. Alors, heureux, et on va terminer là-dessus, Jésus monte sur la montagne, il regarde la foule, et qu'est-ce qu'il voit? Il voit des gens qui ont faim et soif de justice, et il les déclare heureux. Pourquoi? En soi, passé un certain degré, la faim et la soif sont insupportables. Alors peut-être deux raisons. D'abord parce qu'avoir faim et soif de justice est signe qu'on est spirituellement vivant. Sans l'action de l'Esprit Saint, on n'en aurait rien à faire de l'injustice. Surtout de l'injustice à l'égard de Dieu. Et donc le fait que tout d'un coup vous êtes blessé parce que Dieu n'est pas honoré, parce que Dieu n'est pas respecté, eh bien c'est le signe que vous êtes vivant spirituellement. Un peu comme un médecin qui dirait ben, « vous avez retrouvé l'appétit, ça veut dire que la santé revient ». Eh bien, d'une certaine façon, il est bon d'avoir faim et soif de justice, c'est signe que vous êtes en bonne santé spirituelle. À partir du moment où vous en fichez de tout, ben, ce n'est pas signe de bonne santé. Vous n'avez plus faim. Et puis la deuxième chose, c'est que heureux ceux qui ont faim et soif de justice, parce qu'ils seront rassasiés. Ah, on est heureux par anticipation, on sera rassasiés, voilà la bonne nouvelle. D'abord, on sait qu'on a la victoire. Un jour, tout genou fléchira devant le Seigneur. Et nous verrons la justice de Dieu en toutes choses. Nous verrons le Christ qui nous donne sa justice. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on verra aussi la justice en nous, puisque saint Paul nous dit que nous serons saints et immaculés en sa présence. Donc nous aussi, on sera des justes. Et puis on verra la justice dans le monde, parce que le mal sera chassé. Et donc, ceux qui ont faim et soif de justice ont cette promesse qu'ils seront comblés. Ils seront remplis à bord. Comme l'a chanté Marie, Dieu console, comble de bien les affamés. C'est dans le Magnificat, il comble de bien les affamés. Alors, est-ce qu'on n'aura plus faim et soif au ciel? Est-ce qu'on n'aura plus de désir? Ça serait un peu tristoun quand même. Moi, je crois qu'on désirera Dieu de plus en plus. Mais ça sera un désir qui ne nous fera pas souffrir. En soi, le désir est une merveilleuse chose et je ne vois pas comment on pourrait être heureux sans une forme de désir. On désirera aller de plus en plus loin dans le mystère et l'union à Dieu, éternellement, mais sans souffrance. Alors ici-bas, je termine là-dessus, est-ce qu'on peut anticiper un petit peu les choses et être déjà heureux ici-bas quand on a faim et soif de justice? Saint Thomas pose la question. Il pose la question de savoir si les promesses sont pour plus tard ou déjà maintenant. Et il dit parfaitement c'est pour plus tard, mais dès maintenant, de façon incoative, de façon imparfaite, c'est déjà là. Et il dit, ils sont déjà rassasiés en cette vie par cette nourriture dont le Seigneur dit, ma nourriture est de faire la volonté de mon Père, ceux qui ont faim et soif de justice. Il y a un bonheur de chercher à faire la volonté de mon Père, de notre Père, dès maintenant, même si encore pour l'instant, on ne voit pas toujours la justice éclater au grand jour. Mais à partir du moment où on se dit « je vais faire la volonté de mon Dieu, je vais honorer Dieu », eh bien, il y a déjà quelque chose en nous qui relève de la justice éternelle et qui nous rend par conséquent heureux. Alors, je ne sais pas si j'ai dépassé les 40 minutes, mais sinon, vous me devez 19 millions et 200 000 dollars. Je vous souhaite une bonne conversation à table.